Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fous !
Vous écoutez les entonnoirs. Vous écoutez les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
T'es fou ? C'est pas bien normal. Il n'est pas comme nous.
Les anormaux, quoi, les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais fait quoi, on fait notre émission de radio,
ouais,
on discute quoi.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était un coup là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Avec tout ça, direct.
Bonjour les entonnoirs.
Bonjour Ben.
Bonjour Ben.
Bonjour
auditeurs et auditrices.
Bonjour tout le monde.
Donc,
bonjour.
Moi c'est Margot.
Oui, alors.
Serge.
Aline, vas-y, bonjour.
Bonjour.
Olivier, bonjour à tous et à toutes.
Bonjour Thierry.
Bonjour Manico.
Florent, bonjour.
Salut, c'est Christopher.
Bonjour, c'est Rachid.
Et il y a Ben.
Et vous écoutez l'émission 781 des entonnoirs.
Au programme
Actu Service, on aura un débat sur les smartphones à l'école et les smartphones dans la poche des jeunes.
Voilà.
On parlera également de sclérose en plaques dans une chronique santé. Mmh. On aura peut-être une chronique sport. Y a-t-il un quiz aujourd'hui, les gars ?
Tout à fait.
Sur ?
Sur les films.
Ok.
Ah.
Et puis un poème de Thierry, la météo de Malika. Côté musique, on écoutera La Daniva, on écoutera Crosby, Stills, Nash and Young, Jane. Mais on va commencer par Kim Wilson, proposé par Serge.
Bonjour, auditeur, auditrice. Bah, on va parler de ce monsieur. Il s'appelle Kim Wilson. Il est né le 6 janvier 1951. Eh bien oui, il y a 73 ans, parce que moi je suis en 52, j'en ai 72. Bon, il est né à Détroit, dans le Michigan. C'est un chanteur de blues américain et joueur d'harmonica. Le titre, c'est Looking for Trouble.
Bien.
Bien.
On y va.
Trouble found me. Barely legal, six times three. The finest thing that I ever did see. Good trouble, a whole lot of trouble. I was looking for trouble, I believe, and done found me. When I first saw you, baby, out of sight, hair up high, the night of my brain, the trouble must be your middle name. In your trouble, yeah, you just my kind. You a whole lot of trouble, the trouble I had in mind. Hey, well, a little bit of wine, a taste of gin, eyes and the devil is again in your trouble. Yeah.
key. You in for trouble, just wait and see. You trouble. Now I ain't gonna lie. You the kind of trouble I always get upon a try.
Merci Serge pour cette pause musicale.
Oui, c'était génial.
On passe à l'actu service.
Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonjour.
Est-ce que l'un d'entre vous a envie de prendre la parole en premier pour présenter son actu? Rachid, ah tiens.
Une petite info voilà, sur une application qui vient de sortir. C'est Microsoft, je crois, qu'il a fait. Ça s'appelle... Visa, et en fait c'est une application, vous mettez une photo et vous dites un texte ou vous mettez une musique, et en fait ils font bouger comme dans Harry Potter, vous voyez dans le journal quand ça bouge, ils font bouger les lèvres et c'est super bien fait, voilà, donc vous imaginez tout ce qu'on peut faire, mettre la photo de sa prof en train de dire c'est le meilleur élève que j'ai jamais eu. Mais bon, il y a de quoi s'amuser, quoi.
De faire des de deepfakes, comme on...
Ouais, ouais, fait, assez facilement, tout le monde pourra en faire sur son téléphone.
C'est bien, l'égalité dans le deepfake, c'est génial. La démocratie dans le deepfake. Ok, allez Aline.
Donc moi, je vais vous parler de la Décothèque, ou l'histoire d'une belle aventure humaine. Donc c'est une association qui a été créée par Tiffany Origlia, pardon, qui a 35 ans, et qui n'a pas eu de mal à embarquer une quinzaine de personnes dans cette aventure. Donc décrocher un logement, c'est pour beaucoup inespéré, alors le décorer, même pas en rêve. Donc c'est une association qui œuvre pour la décoration des appartements des personnes qui sont en situation précaire et qui n'ont pas les moyens de faire des petits travaux ou de décorer leur appartement, alors que c'est pour elle quelque chose qui est essentiel pour reprendre le fil de sa vie, comme elle le dit dans l'article. Et donc elle a commencé avec Ludivine, sa banquière, et Virginie, une décoratrice. Ça a été les trois premières personnes qui ont commencé l'association. Maintenant, elles sont quasiment une quinzaine de bénévoles. Les personnes sont orientées vers des travailleurs sociaux, donc sont orientées vers cette association. Ils auront une contribution de 2 euros à mettre. On leur remet en contrepartie une boîte à outils et des clous. Et c'est une sorte de pacte entre les deux parties. Comme quoi, ben voilà, on vous donne la boîte à outils, on s'engage à vous décorer chez vous et vous vous engagez aussi à participer activement aux travaux, à participer activement à la recherche de déco, etc. Et elle marche beaucoup par rapport aux dons qui sont faits. Donc il y a des gens qui donnent de la déco, qui donnent des meubles. Donc c'est ce qui va essentiellement... apporter de quoi décorer les autres appartements. Et ils ont posé leurs valises à la croisée rue Kléber à Croix. Donc voilà.
Ben, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Très, très bonne idée.
Est-ce que c'est une association que vous pourriez appeler, par exemple, pour décorer chez vous,
Oui.
Je sais pas, vous auriez envie de...
Oui.
Moi, si je pouvais, je le ferais.
Pourquoi si tu pouvais? Parce qu'il n'y a plus de place pour décorer chez toi, c'est ça? Tout est déjà décoré.
Ouais, je suis déjà décoré, mais elle me déprime cette décoration, j'ai envie de changer. Et
Et pourquoi? Bah, tu peux essayer. Pour 2 euros, peut-être, ils viendront
non,
chez toi.
Non, mais hein. C'est pas la question de 2 euros. C'est que... J'habitais de... Je suis locataire, moi.
OK.
Dans un foyer. Donc,
OK.
Mais même si elle a besoin de meubles et tout ça, moi, je sais que je peux avoir des trucs de meubles et tout ça. Donc, elle, si elle en a besoin pour, justement...
Comment ça marche? Il faut aller déposer nos meubles dans leurs locaux, c'est ça, croiser la roche, c'est ça? Bon, ben, en tout cas, rappelle-nous le nom de cette association, comme ça, si des auditeurs nous écoutent et qu'ils ont des meubles à donner.
C'est la Décothèque. Et comme je disais, ils ont posé leurs valises à la Croisée, rue Kléber à Croix. Donc, peut-être qu'avec l'adresse, c'est peut-être possible d'aller déposer d'accord. des meubles là-bas.
OK. Ouais.
Parce que je préfère donner à cette association-là qu'à
la déchetterie,
à donner à d'autres. Voilà.
OK. Sujet suivant. Bah, Olivier, allez, vas-y.
Bon, ben, pour parler positif, c'est bon pour nous ici dans le Nord. Les nappes phréatiques sont remplies d'eau.
D'ailleurs, on l'entend là. Hein.
Ouais,
je sais pas, auditeur, si en bruit de fond, vous avez aussi les gouttes de pluie qui tombent. La semaine dernière, c'était horrible d'ailleurs. Pendant l'enregistrement, il y a une énorme averse. Et, on entend un bruit d'averse dans le fond de l'émission 780. Si vous voulez l'entendre, vous pouvez l'écouter en podcast. Alors, les nappes phréatiques sont pleines. Cool. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas d'infos là-dessus. Quelqu'un veut rajouter des choses? Allez.
Ouais, juste, y a Copernicus qui a annoncé ce matin qu'en Europe, il y avait 2 millions de personnes qui ont fait appel à des assurances en lien avec les inondations sur l'année 2023. Alors, c'est en lien avec l'eau, mais ça montre quand même à quel point on a eu de l'eau l'année dernière en fin d'année partout en Europe par rapport à d'habitude.
Ouais.
Et c'est vrai que quand on regarde la carte entre mars 2023 et mars 2024 au niveau des nappes phréatiques, on voit que c'était pratiquement vide partout en mars 2023. Et là, en mars 2024, tout est pratiquement rempli. Il n'y a que dans le sud, je crois du côté de Perpignan, des choses comme ça.
Ouais, okay.
Où là, c'est encore, elles ne sont pas du tout
encore arides,
pas remplies. Ouais. Mais sinon, quand on regarde tout ce qui est le nord, même le milieu de la France et tout, c'est plutôt bien rempli.
Bon, bah, c'est bon, maintenant, on a assez de pluie. Merci. Allez, voilà. Serge, tu veux dire un truc?
Ouais, il parle du nord. Bon, entièrement d'accord. Mais en France, je ne sais pas si les nappes sont toutes remplies. Par contre, en 2023, c'était l'année la plus chaude, la plus chaude et sèche depuis pas mal de temps. Bon, voilà.
Sauf juillet. Vous vous souvenez du mois de juillet l'année dernière, non? Le pire mois de juillet de l'histoire de France.
Ouais, ça c'est clair.
Franchement, en météo... Flo, ouais.
Ouais, juste sur les précipitations, en fait, il a fait beaucoup plus chaud tout le long de l'année. Et en fait, en précipitation, on a quand même eu beaucoup de pluie, sauf qu'en fait, ça tombait beaucoup en peu de temps. Et du coup, les sols ont du mal à absorber quand c'est comme ça. On a beaucoup d'eau qui coule, etc., d'où les inondations. Et on n'a pas des pluies qui sont un peu constantes et fines qui font que les sols se remplissent. C'est pour ça que, en fait, malgré la chaleur, il y a eu beaucoup de pluie, mais les nappes ont eu du mal au début à se remplir.
Bon, Florent, il n'y a pas assez de terrain pour évacuer ouais. l'eau.
C'est ce qu'on appelle le ruissellement, en fait. L'eau, elle coule, mais elle reste en surface. Et voilà, c'est ce que Macron il voulait faire, le ruissellement en venant
ouais,
d'en haut.
Voilà.
Mais pareil, l'argent, il nous a pas imprégné.
Là, par contre, il a été absorbé dès les premières couches de la société, le ruissellement macronien.
Et après, au niveau des nappes phréatiques, ça dépend aussi des périodes à laquelle il pleut. Comme là, par exemple, en ce moment, là, au printemps, en fait, comme les arbres reprennent de la vigueur et tout ça, en fait, c'est facilement aussi absorbé par les racines des arbres. Tandis qu'en hiver, on sait que comme ils ont moins de besoins, ils vont moins absorber et donc ça va plus remplir les nappes phréatiques. C'est aussi, ça dépend aussi des périodes à laquelle il y a de la pluie.
Serge.
Par contre, j'ai vu à la télé, les agriculteurs sont pas très contents parce que bon, il y a plus, d'accord, mais la terre, leur terre est on dirait de la pâte à modeler. Elle n'arrive pas à trop absorber peut-être jusqu'aux nappes phréatiques.
Alors, ouais. C'est un peu comme du sable blond.
En fait, trop absorbé, c'est ça.
Ils ont du mal à planter, en fait, parce qu'il y a trop d'eau. Et donc, la graine, elle risque de pourrir dans le sol quand tu as trop d'eau. Mais on ne s'en sort pas, en fait, avec les agriculteurs. Hein. Quand il pleut, ça ne va pas. Quand il gèle, ça ne va pas. Quand il fait trop chaud, ça ne va pas.
C'est clair.
C'est peut-être l'agriculture.
On va arrêter de faire pousser des légumes et des fruits, hein, franchement.
Non, mais on fait comme avant. Il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais. Quand ça marche, bah, tu vends bien. Quand ça marche pas, tu vends moins bien.
En tout cas, ça fait parler, hein, la pluie, à ce que je vois. Là. On vient de faire 10 minutes sur la pluie.
Le soleil, oui, mais pas la pluie.
Alors, Olivier, vas-y, sujet suivant.
Bon, par contre, là, ça, c'est pour parler de la jeune Lina, qui est introuvable depuis 7 mois dans la région de Strasbourg. Elle était partie, elle avait pris le train pour rejoindre son copain, et elle est introuvable. Ils ont fait un concert de solidarité. J'ai vu qu'il y avait une chanteuse. Ouais, le point positif, c'est que la solidarité, que les gens sont présents. Et c'est des histoires qui arrivent trop souvent. Et les gens, ils veulent au moins savoir le minimum là-dessus. Et...
Mais le pire, c'est tu penses aussi des fois que quand un gosse qui disparaît, il a peut-être été enlevé, il était dans un réseau. Alors pour les parents, la famille, c'est une douleur, un déchirant.
Serge.
Ouais, ben ouais, c'est comme un peu l'histoire du petit Aimé. Là. Ils ont mis dans le haut Vernet. Dans l'Auvernais, ils ont mis un temps fou il y a eu des battues, ils ont mis un temps fou à un truc, mais c'est une. Comment on appelle ça? Une
joggeuse.
Une personne qui faisait la marche à pied, qui a retrouvé un crâne. Après, ils ont réussi à retrouver le reste du corps, bien sûr en squelette. Et là, ils sont en train de chercher si c'est un accident ou un accident ou
un homicide.
Un homicide, oui.
Ils ne seront jamais.
Sujet suivant. Oh, tu veux réagir, Flo, non? Non. T'allais faire une blague sur un truc pas drôle, c'est ça?
Ok.
Olivier, tu avais encore un sujet dont tu
voulais parler. J'ai pas eu le temps de tout lire, malheureusement. Mais il y a la ludothérapie. Ce serait quelque chose pour coacher, pour stimuler un peu, rassembler les équipes dans une entreprise.
Ah, ouais. Le coach, ça existe aussi en Asie, où l'employé tapait sur un chimbol en défoulant sa colère, en s'imaginant que c'était son patron, son boss, et le fait de taper sur le chimbol, ça le calmait.
Sinon, il y a Florent qui veut proposer aussi un atelier ludothérapie, peinture sur figurine.
En tout cas, ouais. Alors, je suis un grand fan de jeux, mais effectivement, les jeux de société, il y en a vraiment de toutes sortes. Et ça peut permettre une cohésion d'équipe, une facilité de communication par le biais de jeux. Et du coup, après, j'imagine qu'en entreprise, ça permet de garder les mêmes compétences, mais qu'on a travaillé différemment. Donc, merci Olivier pour cette information qui est pleine de bonheur pour moi.
Après, ça dépend des jeux. La roulette russe, par exemple, pour la cohésion d'équipe, c'est un peu moyen.
C'est moyen. Après, dès qu'il y a Russie en ce moment, c'est pas terrible. On va éviter.
Mais Ben, c'est pas la roulette russe genre voyage au bout de l'enfer.
Ah si. C'est ce que je disais. Comme jeu, c'est pas terrible pour forger une équipe. Voilà.
Ou t'élimines les mauvaises personnes.
Oui, ça c'est clair.
Mais c'est le sort qui décide. Florent.
Ouais, une petite information sur l'intelligence artificielle, nouvelles technologies et autres.
Ah.
Ouais. Il y a une petite création technologique qui s'appelle l'intelligence organoïde. Donc en fait, c'est un nouveau champ de la recherche pour les ordinateurs. En fait, il faut savoir que pour le même calcul, le cerveau humain est plus rapide que l'ordinateur et qu'il consomme moins d'énergie, si on devrait estimer ça en énergie. Par exemple, le cerveau humain, c'est 20 watts. L'ordinateur va consommer 21 mégawatts, ce qui est carrêmement plus.
Ah ouais. 1000 fois plus, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc, en fait, les chercheurs, ils ont eu l'idée de développer l'informatique, l'intelligence artificielle, avec des neurones vivantes. Donc, en fait, ils prennent des cellules souches de cerveau qui vont utiliser et raccorder à des puces électroniques. vu qu'il faut savoir que le cerveau, c'est des impulsions électriques aussi, et en fait d'utiliser ces signaux pour effectuer des calculs qui sont renvoyés ensuite à la puce informatique, qui va faire des calculs avec l'intelligence artificielle, excusez-moi, et analyser tout ça. Donc en fait, c'est une technologie qui est en train de se créer, qui est vraiment en pleine recherche, donc ça peut permettre des avancées quand même qui sont intéressantes sur le plan énergétique et des capacités de calcul. Donc là, c'est encore expérimental, mais ça promet des promesses intéressantes dans l'avenir, à voir ce que ça donne. Mais voilà, en tout cas, une recherche qui peut faire évoluer un peu le futur.
Florent, excuse-moi de déranger, mais est-ce que l'intelligence artificielle et toutes ces technologies, ça fait pas un peu peur ?
Grande question. Grande question. Est-ce que ça fait peur ou non ? Tout est question de l'utilisation. Feu.
Ça dépend si on arrive à le maîtriser.
Exactement. Mais regarde, tout comme le feu, Thierry. Par exemple, le feu, s'il est utilisé correctement, ça permet de cuisiner, de produire de la chaleur, de l'énergie, de se chauffer chez soi. C'est nickel. Si on contrôle mal, on provoque des incendies et autres. Même ce qui paraît assez basique, mais finalement, c'est toujours l'utilisation qu'on en fait. Et l'intelligence artificielle, ça, c'est un peu le même combat. C'est qu'est-ce qu'on va en faire ?
Qu'est-ce que Boston Dynamics va en faire ?
Sauf que l'intelligence artificielle, elle apprend tout seul. Et si tu lui mets un neurone humain qui va développer ses capacités, est-ce qu'à un moment donné, elle ne va pas se dire l'homme devient un danger pour l'homme, et puis parce qu'elle marche par critères et qu'il va falloir, pour que ça aille mieux, il faut supprimer autant de millions de personnes, et puis arbitrairement, elle peut décider de...
Il y a justement les services de démineurs de Paris qui se sont équipés d'un robot de chez Boston Dynamics. Boston Dynamics, c'est la boîte qui est à la pointe de la robotique et de l'intelligence artificielle depuis des années maintenant. Donc on voit que des services de police et de gendarmerie s'équipent de robots démineurs qui peuvent, c'est un peu comme des chiens, et qui peuvent aller dans des recoins, qui analysent l'environnement autour pour savoir comment s'orienter et tout ça. Donc ça, c'est typiquement un bon usage. Mais si on met ces robots-là entre les mains de milices privées ou d'une armée nationale d'un pays, par exemple, je pense que ça pourrait provoquer des conséquences un peu plus graves que juste déminer des bombes, quoi.
D'ailleurs, en parlant de Boston Dynamics, ils ont leur robot Atlas, qui est le robot bipède qui sait faire des saltos et tout ça. Ouais. Le projet vient d'être abandonné officiellement.
Sérieux ?
Parce qu'en fait, avec toutes les nouvelles technologies, ils vont faire encore mieux avec un nouveau robot. Donc, ils ont laissé tomber ce robot-là. Donc, on peut dire adieu à Atlas. Et ils sont en train de travailler sur d'autres systèmes. Beaucoup plus perfectionnés.
Ça fait flipper, non ? Mmh. Un peu. Ouais. Bon, ok. Ou pas. Allez, Chris, continue.
Après, j'avais une petite info, moi. Alors, tout le monde connaît Jules, le chanteur de rap.
Ah oui.
Oui.
Ouais.
Oui. En fait, donc, il fait deux concerts là en 2025, si je ne me trompe pas. Un sur Paris au Stade de France.
Et un Stade Vélodrome. Je crois qu'il y en a deux au Stade de France et un au Vélodrome. Ouais.
Et en fait, toutes les places sont parties en quelques minutes. Du coup, il y a déjà beaucoup de systèmes de revente sur des sites en ligne où ils revendent jusqu'à plus du double le prix des places. Comme il y avait eu pour le concert de Beyoncé en France, il avait eu pour le concert de Lana Del Rey aussi. Et donc la France réfléchit à un système pour interdire, enfin, ou en tout cas limiter ça. Alors il faut savoir déjà que tout ce qui est des places pour des événements subventionnés par l'État, on n'a pas le droit de se faire une plus-value dessus. Okay.
Ah oui, bien sûr.
Tout ce qui est festival, normalement, on ne peut pas revendre des places plus chères que ce qu'on les a achetées. Mmh. Et au Brésil, ils ont trouvé un système, ils ont légiféré un projet de loi. Alors d'après vous, comment peut s'appeler cette loi ? Vous ne savez pas ?
Personne n'a entendu parler. Bolsonaro.
Non, la loi Lula. Taylor Swift.
Ah, énorme.
En fait, c'est le nom de la loi que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Donc le nom de la loi, c'est la loi Taylor Swift. Et en fait, c'est de punir les revendeurs de billets d'une peine pouvant aller jusqu'à 4 ans de prison et une amende pouvant représenter jusqu'à 100 fois la valeur du billet. Et donc au Brésil, donc, ils ont un système maintenant où si, par exemple, j'achète une place, je sais pas moi, pour le concert de...
Taylor Swift.
Et que je l'achète par exemple 200 euros et que je vais la revendre 400, eh ben, au Brésil, c'est interdit. On doit la revendre le prix qu'on a acheté.
Ouais, c'est pas mal.
Donc voilà.
Il était temps que ça arrive, d'ailleurs,
je trouve. Ce serait bien que ce soit aussi dans d'autres pays comme la France et tout ça. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça et qui vont acheter plein de places.
Mais ça, depuis toujours. Moi, j'ai toujours connu les mecs à l'entrée des concerts, quand j'allais voir mes premiers concerts au Zénith, au Stade Couvert de Liévin pour AC/DC et ce genre de trucs. des gens qui revendaient les places dont c'était le métier. Quoi. C'est-à-dire, ils en avaient acheté en grande quantité pour les revendre beaucoup plus cher à la porte du concert, pour les pauvres malheureux qui n'en ont pas.
Eh bien, c'est pas nouveau, parce que souvent dans les salles de cinéma ou salles de spectacle, il y en a qui revendent les places. Voilà.
Alors, les cinémas, ça se fait moins quand même, mais c'est vrai que...
Et même pour les cartes Pokémon.
Foot,
pour les cartes Pokémon. Mais il y en a plein qui vont acheter genre tout ce qu'il y a dans le magasin pour ensuite leur vendre plus cher. Ouais. Parce que c'est des quantités limitées. C'est un peu le même principe. Hein.
Mais là, on parle de collection, d'objets de collection. Donc, il y a
de la spéculation.
C'est comme les objets d'art. Il y a de la spéculation sur les objets d'art. Et puis, les objets d'art prennent de la valeur avec le temps. Là, c'est difficilement.
Là, quand même, les trucs Pokémon, c'est qu'en fait, au lieu que tout le monde puisse acheter son coffret, d'ailleurs, il y a plein de magasins maintenant où c'est limité à un. Il y a plein de magasins où il limite à un coffret. Parce qu'il y en a qui vont acheter 20, 30 coffrets. Juste pour les revendre.
D'ailleurs, scandale, je suis allé chercher de la Orval dans un magasin en Belgique. Elle n'était pas en rayon, il a fallu que je la demande au spécialiste bière. Et en plus, j'étais limité à 2 packs de 4 de Orval. Ouais, ils limitent la vente de Orval à 2 packs par personne. J'ai halluciné.
À 2 packs par personne.
Ouais, c'est la première fois que je vois ça pour... en l'occurrence, c'est limité, de la bière. Mais je ne savais pas que cette bière était précieuse au point d'en limiter la vente, quoi.
Après, il y en a qui veulent faire de la plus-value sur tout. Hein.
Ouais.
Je veux dire, dans les braderies, le moindre truc Lego ou Playmobil, les gens ils pensent que ça vaut une fortune, alors que des fois, ça vaut rien du tout. Donc, voilà.
Bon, allez, d'autres sujets, on a fait le tour, on passe à la musique. Musique
de moi-même.
Margot, vas-y, tu as choisi.
Oui, donc, je vais mettre
Jane.
Donc, c'est une chanteuse américaine.
Non, elle est française.
Elle est française.
Ouais.
Elle a déjà fait 2 albums.
Elle a beaucoup vécu à l'étranger étant jeune, mais elle est française.
Et là, c'est son 3e album. Et donc, on va écouter son premier titre, qui est
The Fool.
Voilà.
Walking on the wire. From Earth to Venus ground, playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in outer space, I should have known better. A rain of fiery rocks, the sun lights up the dark. Walking on the wire.
Les entonnoirs, la suite, c'est un petit débat. Serge, tu veux parler d'un truc peut-être?
Non, non.
Ah, tu veux introduire le débat?
Après,
c'est ça?
Après, ouais.
Ok. Eh ben, on va avoir un débat sur les smartphones maintenant. Vas-y, Serge.
Ouais, ben ça, Gabriel Attal va voter deux lois.
Il va proposer deux lois.
La première loi, il veut interdire les téléphones, les smartphones dans les écoles. Déjà, il y a l'Espagne et le Danemark. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et est-ce que ça va faire diminuer la violence dans les écoles?
La parole est à vous.
Ben, pour moi, oui, parce que les enfants, enfin, les adolescents, les enfants ne pourront plus se permettre d'utiliser le portable en classe, ce qui était bien déjà, je pense, même en classe.
C'est déjà interdit, normalement, en classe, je veux dire.
Oui, mais il y en a qui le font quand même, ouais. Hein, qui l'utilisent quand même.
Alors
hein.
Après, moi, j'ai une question. Quand on dit l'interdire dans les écoles, c'est jusqu'à quel âge? C'est jusqu'au lycée? Jusqu'en terminale?
Ben...
Jusqu'à la primaire, je me trouve quand même.
Non, je pense qu'en primaire, les enfants n'ont pas de smartphone. Enfin, non, j'ose espérer qu'il y en a très peu qui en ont.
Non, je crois pas.
Il n'y a pas d'âge, il faut l'utiliser de manière rationnelle.
Et non, je pense que déjà, ça concerne beaucoup les collégiens.
Ouais.
Est-ce que ça va concerner aussi les lycéens?
Ben.
Ouais. Hein
bah, c'est une question que je pose, hein, j'en sais rien. Aline, ouais.
Il y a déjà pas mal de collèges qui interdisent l'utilisation des smartphones au sein de l'établissement. Moi, je vois mon copain qui est assistant d'éducation au collège Albert Debert. Ils n'ont pas le droit d'utiliser leur smartphone, au sein de l'établissement. Ils sont obligés de le couper quand ils rentrent.
Dans le lycée
dans le collège.
Dans ouais. Le collège, ouais. Moi, je connais un collège privé juste à côté de mon boulot à Lille. Ou alors, si tu es pris avec ton téléphone portable dans ton cartable, c'est une heure de colle. S'il te voit avec le téléphone dans la main, même éteint, c'est deux heures de colle. Et si tu as le malheur de l'utiliser dans l'enceinte du collège, c'est quatre heures de colle.
Eh ben.
Mais Ben, ils utilisent l'image aussi de façon qui est ludique. Ils en font comme un jeu. Et ils filment leurs proches, leurs copains. Il y a des humiliations.
Tout à
donc
fait.
La technologie, le smartphone devient un appareil dangereux pour des personnes qui sont sensibles, qui sont faibles, qui sont vulnérables, qui peuvent être exploitées.
Très bien résumé. Christopher.
Après, je ne suis pas sûr que le fait d'interdire les téléphones, ça va limiter la violence. Ça va peut-être limiter un petit peu le harcèlement dans plusieurs domaines en même temps. Mais au niveau des violences, enfin les dernières violences qu'il y a eu, c'est pas trop, à part à Grande-Synthe où c'était pour voler son téléphone, il me semble. Mais ouais. C'est encore autre chose. Enfin, ça va pas changer la violence qu'il y a. Ça va pas trop changer la violence qu'il y a entre des mineurs envers. Enfin, voilà, leur rapport avec la violence.
C'est
ouais,
je pense que c'est plus profond.
Je suis entièrement d'accord que ce soit avec toi, mais ils ont prouvé que. Je crois que c'est l'Espagne et le Danemark. Ils ont prouvé que les lycéens, les collégiens, qui n'ont pas leur téléphone. Comment on appelle ça les...
La concentration?
Non, les élèves s'instruisent mieux.
Ok.
Beaucoup pour ça. Après, est-ce que ça va diminuer beaucoup la violence? De toute façon, ils auront leur téléphone après la sortie de l'école. Hein. Bon, d'abord.
Moi, je pense que de toute façon, réduire le temps d'écran des adolescents, ça ne peut pas avoir d'effet négatif. Ça peut avoir que des effets positifs. Mmh. Rachid. Ouais.
Par rapport au harcèlement, on voit qu'il y a toujours les réseaux sociaux qui font. Il y a toujours eu des gens qui embêtaient les autres dans les cours d'école.
Oui.
Les enfants, ils sont toujours méchants entre eux. Pas toujours, mais souvent, il y a des méchants qui s'en prennent aux plus faibles. Le fait que ça devienne public avec les réseaux sociaux, ça a pris une autre importance. Il y a eu plein de suicides hein, de jeunes, ouais. 12, 13, 14... C'est énorme, hein. On parle de mort, donc il y a quand même quelque chose à réfléchir. Et aussi toutes les violences là, de personnes, comme à Gravelines, il n'y a pas longtemps, de gamins de 14 ans, parce que ça reste des gamins hein, de 14 ans, qui ont tabassé à mort quelqu'un d'autre, aux sorties d'école. Il y a un lien direct avec Internet et les réseaux sociaux. Il faut vraiment réfléchir à quelque chose. C'est compliqué parce qu'on a toujours la liberté d'expression, les libertés, donc c'est réduire les libertés. Ça serait réduire les libertés, mais il y a quelque chose à réfléchir sur comment limiter l'accès des jeunes à certains contenus violents, en fait. Je pense qu'ils sont violents parce qu'ils voient des contenus violents, que ce soit pornographique ou autre chose. Hein. Dès l'âge de 8 ans, 9 ans, tu peux aller dessus assez, en faisant un pseudo. En plus, comme ils sont plus forts que leurs parents qui n'avaient pas de téléphone portable, ils arriveront toujours à contourner. Je ne sais pas comment... Il y a bien... Voilà. Il y a des chercheurs qui, comme disait Florent, qui prennent des cellules souches et de l'intelligence artificielle et qui font de la recherche. Bah, il y a bien quelques ingénieurs qui sont capables de faire de la recherche pour trouver des moyens ou de brouiller Internet au moins sur une zone ou sur ou un système pour que les mineurs n'accèdent pas, quoi. On voit que c'est pas vraiment fait.
Après, l'interdiction, ça empêche rien. Hein. Je veux dire, les mineurs n'ont pas le droit de voir, ils n'ont pas le droit de fumer, ils n'ont pas le droit de se droguer. Personne n'a le droit de se droguer dans ce pays. Pourtant, voilà quoi.
Bah pourtant, voilà quoi. ils se gênent pas, quoi.
Aline.
Même quand on voit certains dispositifs qui sont mis en place, par exemple pour les sites pornographiques. C'est censé être interdit au moins de 18 ans. Mmh. Et pour rentrer dans le site, il faut juste cocher une case. Je certifie avoir plus de 18 ans.
Mais ils veulent changer ça. Hein. Justement, on en parlait il y a 15 jours dans l'émission.
Ça reste très léger, quoi.
Ouais, ouais. Il y a 15 jours, quelqu'un avait parlé de ce sujet en disant que la carte d'identité allait bientôt être obligatoire pour accéder à ce genre de site. Bon, il y aura quand même des failles. Non, c'est pas ça, Chris ?
La carte bancaire.
Carte bancaire, pardon, ouais, c'est ça.
C'est la carte bancaire qui sera obligatoire, en fait, pour pouvoir accéder au site. Il faudra rentrer tes numéros de carte bancaire.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Bah oui, forcément.
Serge,
et après, en dehors de ça, il y a une deuxième loi de Gabriel Attal qui va plus être votée. Celui qui se fait choper avec un couteau qui dépasse les limites, moi le montant c'était 4 doigts, 5 doigts, qui dépasse plus de ça, il risque d'avoir une amende de 500 euros.
Ouais, les bombes lacrymogènes aussi.
Avec des baïonnettes. Avec des baïonnettes.
Dans les établissements scolaires, tu veux dire ?
Non, en général, dans la rue, si tu as un couteau ou une bombe lacrymogène, tu risques 500 euros.
Sérieux ?
Non, c'est une nouvelle loi qui va le passer.
Aline, ouais.
Bah, c'est pas vraiment juste parce que moi, je sais que quand je sors sur l'île certains soirs, j'en ai une de lacrymo sur moi parce que je me sens pas en sécurité.
C'est
en
très fait. Stigmatisant pour la ville de Lille ce que tu viens de dire. Non, quand même. Hein.
Mais c'est la réalité, c'est que je me sens plus en sécurité sur Roubaix que sur l'île.
Okay.
À certaines heures, au niveau de la gare Lille-Flandre, etc., quand t'es une fille seule, c'est assez chaud.
C'est clair.
C'est assez craignos et moi je sais que j'ai un petit spray au poivre là.
Est-ce qu'il t'a déjà servi ?
Oui, il m'a déjà servi, oui. Au niveau de la CIC, là, la descente d'escalator qui est au niveau de la CIC, au niveau du grand dôme avec la boule par-dessus, là, à côté de l'île Flandre, je suis descendue dans l'escalator, il y avait un mec devant moi, il y a un mec qui s'est mis derrière moi. Et ils se rapprochaient tous les deux et j'ai dû utiliser ça pour réchapper de tout ça, juste parce que j'avais une jupe et que voilà, c'était considéré comme un droit pour eux de m'importuner, quoi. Donc je trouve pas ça forcément super parce que il y a des femmes qui ont besoin de ça pour se défendre, quoi. Donc faudrait faire du cas par cas. C'est sûr que ça peut être mal utilisé, ça peut être détourné, mais tout peut être détourné. Si on a envie de faire du mal ou si on veut blesser quelqu'un, n'importe quoi peut devenir une arme, quoi. Donc.
En fait, le problème, c'est l'humain hein, en général. Hein. C'est pas le. Voilà.
Ouais, bah du coup, c'est parce qu'on en parlait sur la base des écoles, mais la question, c'est l'éducation et l'endroit, l'école, c'est l'enseignement, mais peut-être que le problème de base, c'est aussi juste éducatif. C'est que l'éducation par elle-même. Il y a quelque chose qui se perd ou qui se délite, on ne sait pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même des violences qui sont de plus en plus marquées. Alors, il y a et ça, et le fait qu'effectivement, les médias dans leur ensemble, que ce soit la télé, la radio et Internet, principalement, font qu'on a davantage peut-être accès à cette information et c'est davantage mis en avant par rapport à il y a quelques années. Où, je veux dire, il y a 50 ans en arrière, on n'avait peut-être pas autant accès à toutes ces informations comme quoi il y avait des passages à tabac et autres, et que là, on l'a tout de suite comme information, et c'est diffusé très rapidement.
Je me rends compte que je viens de tenir un propos qui est tenu par les gens qui soutiennent le lobby des armes aux États-Unis en disant que ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont les hommes qui tuent. Voilà.
Bah ouais, parce qu'il y a plein d'attaques au couteau en ce moment, donc ouais, ça n'existait pas avant. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'on
va légiférer là-dessus. Ok, on va passer à un autre sujet. On va se faire une petite chronique santé.
Voilà.
Jingle.
Ça fait longtemps.
C'est l'heure des médicaments. Médicaments.
C'est surtout l'heure de la chronique santé de Margot.
Et oui, bonjour chers auditeurs, chers auditrices. Aujourd'hui,
bonjour.
Je vous parle de la sclérose en plâtre. Vous faites
en plaque. Pas en plâtre.
Excusez-moi.
C'est pas la même.
Donc vous faites dans le numéro, vous faites des pharmaciens qui donnent ça tous les trois mois. Vous faites
c'est un magazine que tu as trouvé dans ta pharmacie, c'est
oui,
ça, qui s'appelle
ça,
Pause
c'est...
Santé.
Voilà, c'est ça, et c'est tous les trois mois quoi qui. Qui donne ça gratuitement. Et donc, j'ai trouvé intéressant de ce qu'il disait sur cette maladie. Quoi. Au fait, il y a quand même 120 000 personnes en France qui sont atteintes de cette maladie. Et il y a trois quarts des femmes qui sont atteintes.
Non, alors trois quarts des malades, donc trois quarts des 120 000 personnes que tu viens de citer, sont des femmes.
Voilà.
Et non pas trois quarts des femmes ont la sclérose en plaques.
Voilà, c'est ça, tout à fait, oui. Enfin, excusez-moi de monter.
Il y a pas de
donc,
mal.
Ça atteint donc les défenses immunitaires. Ça, tu attrapes des troubles moteurs, la sensibilité, des problèmes visuels, troubles de l'équilibre, la coordination aussi. Et donc, Christopher peut en parler un peu de ce sujet.
Donc, en fait, c'est une maladie neurologique.
Oui.
En fait, tous nos nerfs, il y a de l'influx électrique à l'intérieur.
Mmh.
Et en fait, on va dire que les nerfs, c'est un peu comme des câbles électriques. Il y a un isolant qu'on appelle la myéline. Mmh. Et en fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie donc, auto-immune où le corps humain s'attaque à la myéline. Donc
oui.
En fait, ça détruit la myéline. Donc le courant électrique passe moins. Du coup, il y a moins d'informations qui passent par les nerfs. C'est pour ça qu'il peut avoir des pertes de sensibilité. Donc avoir l'impression que sa main, ça fait ou le bras ou
engourdie.
D'autres zones du corps, ça fait comme du bois. On a l'impression qu'on le sent vraiment plus.
Oui.
Perte de mémoire.
Perte de moteur. Alors perte de mémoire, il peut avoir quelques troubles cognitifs, mais plus de la concentration, de l'attention. Mais c'est un peu plus secondaire. Mais il peut avoir des pertes moteurs. Dans les problèmes oculaires, on peut avoir soit la perte de la vue d'un œil. C'est toujours sur un côté.
Oui.
Ça, on peut avoir aussi une diplopie, c'est-à-dire qu'on va voir double.
Oui.
Donc on a les pertes d'équilibre, on a une fatigue. La fatigue est vraiment le premier signe, enfin c'est un des signes chroniques. Alors la maladie, elle peut évoluer de deux manières. Comment ? Les paresthésies aussi. Et du coup, ça peut évoluer de deux manières, soit par poussée. Donc en fait, on va avoir une poussée avec donc une perte sensitive ou une perte moteur dans un membre. Enfin, soit ça peut évoluer de manière chronique un petit peu à la fois.
Oui.
Il y a plusieurs. Type différent.
Mmh.
En fait, dans ces cas-là, pour repérer la pathologie, on fait un scanner, un IRM cérébral. On va voir qu'il y a des plaques en fait dessus et une ponction lombaire. Donc en fait, on prélève dans la moelle épinière, on prélève du liquide céphalo-rachidien en fait, et
oui.
On le voit aussi.
Mais moi, on m'a dit que ça peut provenir aussi d'un choc.
Alors, en fait, c'est génétique. Alors, on sait qu'il y a comme c'est une maladie auto-immune, on sait qu'il y a une grosse part de génétique.
D'accord, ok. Parce
que... Après, ce qui va provoquer une poussée, ça peut être un stress important ou un choc émotionnel peut provoquer une poussée.
Ouais.
Quelqu'un qui n'a aucun problème au niveau génétique, il ne va pas l'attraper parce qu'il a un choc émotionnel. Par contre, si on a une prédisposition, voilà, ça va être un élément déclenchant. Si on a une prédisposition, ça peut être l'élément déclencheur.
Et aussi...
C'est une maladie chronique comme la schizophrénie, hein, où on peut dire consommer du cannabis peut provoquer la schizophrénie. Mais en fait, c'est une fragilité qu'on a. Et en fait, ça peut être un accident, un problème, un problème familial, un choc qui déclenche la maladie. Mais à la base, on est déjà fragile, on a une fragilité... plus importante que d'autres personnes qui vont consommer une drogue et qui ne vont pas tomber malades.
Mais un choc qui est un véritable traumatisme.
Voilà, c'est ça.
Mais cette maladie, elle peut s'endormir longtemps, en fait, des fois.
Ça dépend comment expliquer, Christophe.
Et ça vient d'un seul coup.
Ou en fait, c'est une, l'information, en fait, elle a du mal à passer dans les câbles intérieurs, dans les nerfs. Et donc, où ça évolue graduellement, comme il a dit Christopher, ou ça évolue par poussée. Souvent, ça évolue par poussée. On a des petits signes, plus rien pendant longtemps, pendant une année, deux années. Et après, on a une autre poussée qui est un peu plus invalidante et qui est plus forte, où on perd encore des choses. C'est pour ça qu'elle s'arrête et qu'elle reprend.
D'accord.
En matière de dépression, schizophrénie, etc., quand tu es soigné au départ, mais s'il y a, et que ça va mieux après, il faut prendre son traitement parce que ça peut provoquer une rechute, et rechute plus dure à soigner.
Bah là, c'est pareil, hein. C'est une histoire de nerfs. Voilà, ils vont prendre des traitements pendant toute leur vie, ceux qui ont ça.
Oui, mais de toute façon, ils finissent en fauteuil roulant.
Il
n'y
a pas vraiment de solution. S'ils prennent leur traitement, bah, ils auront moins de poussées, moins souvent, et donc moins de conséquences. Mais c'est quand même très grave. On peut finir, en fauteuil roulant. Si on prend, si on soigne mal, on peut avoir des gros problèmes.
Chris.
En fait, d'une personne à une autre, ça peut être très différent. Il y en a qui vont se déclencher très tôt, qui peuvent se déclencher même dès 15-20 ans. Mmh. Il y en a qui vont le déclencher plutôt vers 40-50 ans. Mmh. Et ça dépend, il y a des personnes, ils vont faire des poussées limite tous les mois. Donc à chaque fois, il y aura ce qu'on appelle des bolus de corticoïdes. Donc c'est des anti-inflammatoires à forte dose pour calmer l'inflammation liée à la myéline, pour limiter, voire même pouvoir récupérer après. Et après, il y a des personnes qui font des poussées, une poussée tous les 5 ans... C'est très, très variable. Donc, les personnes qui vont faire beaucoup de poussées, à chaque fois, elles vont perdre un petit peu au niveau des capacités. Ouais. Donc, on peut finir en fauteuil roulant ou avec une canne. Après, il y a des personnes qui vont bien récupérer à chaque fois. C'est vraiment très, très variable. La chose qu'on remarque pour tout le monde, c'est vraiment la fatigue chronique ou le fait de devoir prendre sa douche. Bah après, il faut se poser. On a besoin de s'asseoir et de se poser. Si on veut faire un peu le ménage, bah après, on doit se poser aussi. Ça fait vraiment une fatigue, mais musculaire. Enfin, musculaire. Vraiment comme si on avait fait, 50 abdos.
Aline.
Ouais, ça me fait beaucoup penser à l'épilepsie. Je trouve qu'il y a un rapport avec moi. Je sais que je suis épileptique. Et je fais beaucoup de crises. J'ai déclenché mon épilepsie en 2020, donc quand j'avais 35 ans. C'est une épilepsie tardive. Et à chaque fois que je fais une crise, je récupère, mais je récupère pas forcément tout. Le fait que je porte des lunettes, c'est lié à mon épilepsie, parce que je perdais des points de vue, entre guillemets, à chaque fois. C'est une maladie, j'ai un traitement que je vais devoir prendre toute ma vie. C'est une maladie évolutive aussi, je fais de plus en plus de crises, elles sont de plus en plus longues, de plus en plus difficiles à combattre. Donc je trouve qu'il y a un lien, en plus c'est aussi avec le système nerveux, donc je trouve qu'il y a un lien avec la sclérose en plaques.
En fait oui, comme tu l'as dit, c'est deux maladies neurologiques, et du coup ça touche, alors c'est pas le même mécanisme, mais ça touche le système nerveux, en fait. Mm. Donc, voilà.
Il faut qu'on avance, parce qu'on est très en retard dans cette émission. Oui. Donc, musique, on va écouter un morceau que tu nous proposes, Thierry, c'est Crosby, Stills, Nash & Young.
Crosby, Stills & Nash, en fait, c'est pas moi qui le propose, mais c'est un groupe des années 70. Ils ont fait pas mal d'albums country. Ils ont composé un album avec Neil Young, des pionniers, tout ça, et c'est une musique assez agréable, comme Neil Young, qui nous ferait remonter le temps.
Ça s'appelle Teach Your Children, et c'était donc Crosby, Stills & Nash avec Neil Young.
Because the past is just a goodbye.
teach your children well. Their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams. The one they fix, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. And you, of tender years, can't know the fears that your elders grew by. And so please help them with your youth. They seek the truth before they can die. Teach your parents well. Their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they fix, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh.
Les Entonnoirs, émission 781, on continue avec le poème de Thierry.
Oui, bonjour tout le monde, c'est Thierry. Elle est l'entourloupe tonitruante au sommeil de plomb où les boulets du passé meurent et fait les ordures des souvenirs soporifiques faisant d'elle une poupée à la voix cristalline, comme un démon des alpages, en tenant le lulement du roux, se ressassant du chaperon rouge où les crocs dévastateurs dans une fête de la solitude peuplée de lutins, de farfadets, de gnomes, à ce tournoi où la vie a des surprises tamponneuses envers des détours à l'infini.
Merci Thierry. Écrit et lu par toi-même, hein. On précise quand même.
Oui, c'est moi qui l'ai écrit.
Allez, la suite, c'est le quiz préparé par Flo, que par Christopher. C'est toi qui l'as fait ? Ok, ah oui. Ok. Je pensais que Flo était dans le coup aussi, mais tu vas jouer. Bah, tiens, mets-toi à côté, prends un micro, là, viens avec Malika.
Ah, tu veux ma place ?
Alors, c'est un quiz, Christopher.
Alors, c'est un quiz sur les films français.
Ah.
Ah. Okay. Car la France est un haut lieu du cinéma.
Mmh. Oui.
Donc du coup, à chaque fois, je vais vous donner trois mots pour définir le film.
Ouais.
Et il faut essayer de trouver de quel film je parle. Alors voilà, il y en a où ce sera plus facile, il y en a où ce sera un peu plus compliqué.
Ok.
Vous êtes prêts pour le premier ?
Allez.
Vitesse, Marseille, Peugeot.
Taxi.
Fast Furious.
Alors c'est Taxi, Fast and Furious, c'est moins français. C'est la version américaine de Taxi, en fait, ils nous ont tout piqué.
Il n'y a pas un remake Vite et Furieux qui va se faire, non ?
Non, c'est la version québécoise.
Ah, ok.
Attention pour le deuxième. Si je vous dis ménage, sushi, place Kilichi.
Chouchou.
Bien, donc avec Gad Elmaleh. Si je vous dis échange, foot, Labrador.
Didier.
Didier.
Bien.
Avec Alain Chabat.
Tout à fait. Si je vous dis meurtre, cinéma, Carioca.
La Cité de la Peur.
Bien, La Cité de la Peur. Alors, si je vous dis Patrick Swayze, Cassé, Surf.
Brise de Nice.
Point Break.
Brise de Nice.
Brise de Nice. Alors, attention, on continue. Si je vous dis Belle Famille, Tabou, Cigarette.
Le Paris. Bien vu,
bien vu, Rachid. Si je vous dis Loto,
Une vie héroïque.
Famille, frites.
Les tuches.
Bien, les tuches.
Les tuches. Les, ouais, avec l'autre, ouais.
Si je vous redis famille, dispute, Adolphe.
Le prénom, Adolphe.
Ouais, le prénom.
Bien, le prénom. Alors, celui-là, il est peut-être un peu plus dur. Si je vous dis restaurant, clown et industriel.
Avec Coluche et De Funès, là.
L'aile ou la cuisse, bravo. Et enfin, le dernier, si je vous dis repas, lombalgie, le blanc.
Le dîner de con,
bravo. Bravo. Vous êtes vraiment très, très fort. Voilà.
Ton quiz était trop facile, Non, bravo à tous. La suite, la météo de Malika.
Jingle.
Seigneur météo, quando dit-il fait beau. Seigneur météo, à la glace et frigo. Aïe, aïe, Seigneur météo, quando mi transistor. Esperanza, calor, il adore.
Bonjour auditeurs et auditrices, voici la météo de la métropole lilloise. Samedi 27 avril, 8 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi. Quelques averses. Dimanche 28 avril, 11 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Temps nuageux. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Oscar Wilde.
Merci Malika, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à ceux qui nous écoutaient. Musique pour nous quitter avec La Daniva, un groupe lillois qui participera à l'Eurovision, mais non pas pour représenter la France, pour représenter l'Arménie. Christopher, je sais que tu es un fan de l'Eurovision. Du coup, tu es allé écouter un peu toutes les chansons, c'est ça?
Non, j'ai écouté que pour l'instant, parce que le reste, je laisse des surprises.
Ok.
Il me semble qu'ils sont dixièmes dans les bookmakers, pour dans les favoris. Et donc, en fait, elle est d'origine arménienne. Lui, il est lillois. Et en fait, ils font un duo à deux, donc, où elle chante, lui joue de la musique. Et ils ont vraiment bien marché, notamment à l'étranger.
Ouais, ils ont même fait une tournée américaine là ces derniers mois et tout.
Ils sont passés à la télévision arménienne. Enfin voilà, ils ont vraiment eu beaucoup de succès. Et du coup, la fédération Eurovision de l'Arménie a demandé à ce qu'ils représentent le pays. Ils ont accepté. Voilà. Donc on leur souhaite beaucoup de chance pour ce concours.
Alors c'est un duo, mais en vrai sur scène ils sont plus que deux. Il y a aussi beaucoup plus de musiciens, mais c'est vrai qu'à la base ils sont deux. On les écoute avec le morceau Yako, qui sera le morceau de l'Eurovision, c'est ça?
Tout à fait, vont représenter l'Eurovision avec ce morceau, plein d'entrain.
Bon, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bye bye.
Au revoir.
Qu'est-ce qu'elle a pas